sur Radio Orient. Bonjour à tous, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, Israël dit avoir tué le chef d'état-major du Hezbollah dans sa frappe sur Beyrouth qui a fait 5 morts et 28 blessés. Première prise de parole de Boualem Sansal depuis sa libération. L'écrivain dit avoir toujours voulu la réconciliation entre Paris et Alger. Enfin, dans notre dossier du jour, entretien avec le chercheur Sédic Abba pour faire le point sur le sommet du G20 qui s'est tenu ce week-end. L'armée israélienne affirme avoir tué Haïssam Ali Tabatabeh, présenté comme le chef d'état-major et le plus important commandant du Hezbollah. Il a trouvé la mort lors d'une frappe israélienne hier contre un immeuble résidentiel de la banlieue sud de Beyrouth. L'attaque a tué au moins 5 personnes et fait 28 blessés, selon le ministère libanais de la Santé. Ce responsable du Hezbollah figurait sur la liste américaine des personnes liées au terrorisme. Selon Washington, il a notamment été le chef des opérations du Hezbollah en Syrie et au Yémen. L'armée israélienne a annoncé le limogeage de 3 généraux qui étaient à des postes clés lors des attaques du 7 octobre 2023. Des sanctions disciplinaires ont été prononcées contre d'autres officiers supérieurs en raison de leur échec à empêcher ce jour-là l'attaque la plus meurtrière qu'est connu Israël. Une nation du Hamas s'est rendue au Caire ce dimanche lors d'un entretien avec le chef des services de renseignement égyptien. Elle s'est engagée à respecter la première phase de l'accord de trêve. Ce matin, de nouveaux bombardements israéliens à l'est de Gaza et de Khan Younes ont tué au moins 3 Palestiniens et fait plusieurs blessés. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se dit très optimiste sur la possibilité de conclure très vite un accord sur l'Ukraine. Le responsable américain a rencontré à Genève des représentants ukrainiens et européens. Enfin, Gérald Darmanin souhaite une refonte des règles d'application des peines en matière de criminalité organisée. Le ministre de la Justice a fait cette déclaration alors qu'un détenu de la prison de Vendin-le-Vieil, qui accueille des trafiquants de drogue, a obtenu une autorisation de sortie. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Je suis depuis toujours pour la réconciliation entre la France et l'Algérie. Et c'est ce qu'a dit Boualem Sansal de sa première prise de parole à la télévision. C'était dimanche soir sur France 2. L'écrivain a reconnu contrôler sa parole pour ne pas nuire au journaliste français Christophe Glaise, détenu en Algérie et dont le procès a lieu le 3 décembre. Boualem Sansal avait été condamné à 5 ans de prison en Algérie pour atteinte à l'unité nationale. Il a été finalement gracié le 12 novembre et dans ses premiers mots, il a dit que retrouver une vie d'homme libre est compliqué. On écoute un extrait de son interview sur France 2.
C'est compliqué, c'est compliqué. Après 10 mois, on retrouve la vie et des senteurs et des murmures et des choses qu'on ne comprend pas très bien. Et il faut quelques jours, je pense, pour restructurer ses idées, ses réactions. Il y a des choses qui m'exaltent. Une odeur de café. Quand je passe quelque part, une odeur de café me rend dingue. J'ai rêvé tellement de ça. Voilà, donc on a besoin de quelques jours pour mettre les mots exacts sur les événements. Et en plus, c'est que après une longue période d'emprisonnement, on perd son vocabulaire. Vous constaterez d'ailleurs que j'ai du mal. Je cherche mes mots. Je vais bien. On a détecté, diagnostiqué un cancer de la prostate. J'ai été traité pour ça, de manière tout à fait remarquable par des professeurs et des médecins consciencieux, sérieux, qui m'ont pris en amitié d'ailleurs, qui ont fait plus que leur devoir. Et je suis sorti donc de leurs mains en bonne santé.
Boualem Sansal, c'était une première sur le continent africain. L'Afrique du Sud a accueilli le G20 ce week-end. L'organisation regroupe 19 pays et 2 entités régionales, l'Union européenne et l'Union africaine. Un sommet marqué notamment par l'absence des présidents argentins, russes et américains. Les membres du G20 représentent 85% du PIB mondial et environ 2/3 de sa population. Sédic Abba préside le Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Il nous dit pourquoi le fait que le G20 ait eu lieu sur le continent africain est en soi un élément très important.
Dans ce contexte de rétrécissement du multilatéralisme, le fait que le G20 puisse se tenir en terre africaine et dans le contexte actuel de mauvaises relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, le fait que cette grande rencontre puisse se tenir en terre africaine et qu'elle soit un succès à la fois sur le plan de l'organisation, de la participation et du contenu, me semble être important et envoie un message sur la capacité des pays africains à être présents sur des grands événements, à les réussir et à donner cette leçon d'efficacité au monde. Vous savez, quand le G20 a été créé, il n'y avait que l'Afrique du Sud. Depuis, le G20 s'est élargi, d'autres pays africains ont rejoint le G20 et surtout l'Union africaine a été consacrée au même titre que l'Union européenne comme membre du G20 et toutes ces avancées me semblent être très utiles dans le contexte d'aujourd'hui où il y a une volonté de rétrécir le multilatéralisme et de ramener tout aux questions bilatérales, particulièrement de la part de l'administration Trump aujourd'hui.
C'est un succès malgré l'absence, on l'a dit, de plusieurs chefs d'État, dont le président des États-Unis, Donald Trump.
Oui, absolument. Trump, non seulement n'est pas venu, mais a essayé de torpiller toute la présidence, parce que la présidence sud-africaine s'est étalée sur un an et il y a eu une volonté manifeste des États-Unis d'empêcher la réussite de cette présidence. Et le clou de cette volonté d'empêcher la réussite de la présidence sud-africaine a été le boycott par les États-Unis de ce grand événement, alors que les États-Unis avaient leur place compte tenu de leur rôle sur le plan international. Ils ne sont pas venus et je crois que s'ils étaient capables, ils auraient fait pression sur d'autres pour qu'ils ne viennent pas pour consacrer l'échec de cette rencontre. Mais malheureusement, le sommet s'est tenu, il s'est même bien tenu avec une innovation d'ailleurs, puisque la déclaration finale a été adoptée dès le premier jour du sommet, alors qu'habituellement, il faut attendre le dernier jour pour adopter la déclaration et là même avec beaucoup de difficultés, en accord avec les délégations présentes, la déclaration a été adoptée dès le premier jour et les travaux ont pu se tenir avec l'efficacité et le succès que l'on connaît.
Avec notamment des avancées sur les questions liées au dérèglement climatique, le continent africain est le continent qui pollue le moins et c'est celui qui est le plus victime de ce dérèglement. Quelles avancées ont eu lieu lors de ce sommet international pour l'Afrique ?
Non, il y a eu l'affirmation de la solidarité avec les pays victimes de chocs climatiques importants. Vous avez rappelé que l'Afrique n'émet que 4% de gaz à effet de serre et elle est la première région victime des effets du changement climatique. Donc il était important justement qu'on apporte cette solidarité aux pays dont les infrastructures sont souvent détruites, les récoltes sont souvent détruites, qui sont victimes de ce choc climatique et qui ne sont pas en mesure de tout reconstruire. Et s'il faut tout reconstruire, il faut sacrifier d'autres secteurs. Le fait que le G20 affirme sa solidarité et la volonté d'accompagner les pays à supporter ce choc climatique me semble être quelque chose de très important.
Sédic Abba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, il répondait à François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci à Alexandre à la technique. Bonne suite de programme sur Radio Orient.